Scheulem à les reines. Les trois veuves. Ou histoire d'un célibataire endurci et colérique. Nouvelle traduite par Shmuel Redby. Veuve 1. Vous vous trompez, mon cher maître. Toutes les vieilles filles ne sont pas forcément malheureuses et tous les vieux célibataires ne souffrent pas toujours d'égoïsme. Vous, confortablement assis là dans votre bureau, un cigare à la bouche et un livre à la main, vous pensez que rien ne vous échappe, que vous avez pénétré au fond de l'âme humaine et que vous possédez la clé de tous les problèmes. Ajoutez à cela que vous avez découvert un nouveau mot, psychologie. Personne ne vous arrive à la cheville maintenant, hein ? Psychologie. Vous savez ce que c'est que la psychologie ? Rien que de la persilogie. Le persil, vous en mettez dans la salade, ça sent bon, ça donne du goût. Mais essayez un peu de le mâcher, vous verrez. Vous refusez ? Alors qu'est-ce que vous me chantez avec votre psychologie ? Si vous voulez de la psychologie authentique, alors taisez-vous et écoutez attentivement ce que je vais vous raconter. Et seulement après, vous pourrez donner votre avis sur la catastrophe, sur ses causes et sur la racine de l'égoïsme. Moi, par exemple, je suis un célibataire endurci et je le resterai jusqu'à ma mort. Pourquoi ? Ah, bonne question ! Dès que le sujet vous intéresse et que vous écoutez avec attention, là commence la vraie psychologie. Mais ne m'interrompez pas avec des quoi, des comment et des quand. J'ai horreur qu'on me coupe la parole. Vous savez que depuis toujours, je suis un peu capricieux et ces derniers temps, je deviens même un peu nerveux. Non, non, je ne suis pas fou, rassurez-vous. Mais vous, par contre, vous avez toutes les raisons de le devenir, vu que vous avez une femme, moi, non. Aussi, j'ai toutes les chances de rester lucide et sain d'esprit. Vous me l'accorderez sans aucun doute. En bref, ne posez aucune question. Au terme de mon histoire, si quelque chose vous paraît bizarre ou manquant de clarté, vous aurez tout le loisir de m'interroger. D'accord ? Bon. Prenez ma place et moi, sans votre respect, je vais m'installer dans votre fauteuil. Moi aussi, j'aime les sièges rembourrés et vous, sur cette chaise, vous ne vous endormirez pas. Bon, j'en arrive à l'affaire elle-même. J'ai horreur des préambules et des paroles inutiles. Elle avait nom Faya et on l'appelait la jeune veuve. Pourquoi ? Ça y est, ça commence avec les questions. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans ? Sans doute l'appelait-on la jeune veuve parce qu'elle était veuve et qu'elle était jeune. Moi-même, j'étais plus jeune qu'elle. De combien ? Quelle importance cela peut-il avoir ? Plus jeune qu'elle, ça veut dire plus jeune qu'elle. En bref, il se trouvait là des gens qui avaient une langue bien pendue. Ils ont avancé l'idée que moi, étant célibataire et elle une jeune veuve, alors vous suivez ? D'autres me félicitaient déjà et me souhaitaient bonne chance et bonheur. Vous pouvez me croire si vous voulez, mais même sans ça, je ne m'en porte pas plus mal. Je ne vais pas jouer la comédie devant vous. En fait, nous étions faits l'un pour l'autre, comme vous et moi nous sommes faits l'un pour l'autre. Rien, de bons amis, c'est tout. De l'affection même. Son mari et moi, nous nous connaissions. Nous entretenions même des relations d'amitié. Nous n'étions pas vraiment amis, juste il y avait des relations d'amitié entre nous, c'est tout à fait différent. On peut entretenir des relations d'amitié sans être vraiment amis, et le contraire. En tout cas, c'est mon avis et je ne vous demande pas le vôtre. Donc, son mari et moi, nous entretenions des relations d'amitié. Nous jouions ensemble à préférence et aux échecs. On dit que j'excelle à ce jeu, mais moi, je ne suis pas vantard. Il se peut qu'il y en ait de meilleurs que moi, juste je vous dis ce que les gens racontent. Lui, son mari, il avait les meilleures qualités du monde. Et un érudit en plus. Il était autodidacte. J'entends qu'il avait tout appris par lui-même, sans école, sans université, sans diplôme. Les diplômes, ça ne vaut pas un sou. Pas d'accord ? À votre guise, je n'oblige jamais personne. De plus, il avait beaucoup de fortune. Je ne sais ce que vous entendez vous-même par de la fortune. Chez nous, quand quelqu'un a un appartement meublé, une petite calèche pour aller en ville et des affaires un peu partout, on le qualifie de riche. Nous, nous n'éclatons pas, nous n'explosons pas, nous ne jurons pas nos grands dieux. Nous allons tout doucement. Donc, il possédait des affaires, ici et là. Quel plaisir d'entrer chez lui! On vous accueillait toujours avec le sourire. Vous avez des gens qui, à votre première visite, ne savent pas où vous faire asseoir, et puis qui vous tournent le dos à la deuxième. À la troisième, ils vous glacent tellement que vous en attrapez une bronchite. Vous n'avez aucune raison de sourire, je ne fais pas allusion à une connaissance à nous. Chez eux, on vous offrait le boire et le manger, et on vous traitait en ami. Que voulez-vous de plus? Il manquait un bouton à la chemise, immédiatement on vous réparait ça. Cela vous fait rire, un bouton? Mon cher ami, pour nous les célibataires, un bouton c'est toute une histoire. Tenez, un jour, à cause d'un bouton, il est arrivé toute une affaire. Un célibataire a été prié par des amis d'examiner une fiancée éventuelle. Comme ça, pour rire, on lui a montré qu'il avait perdu un bouton. Il est rentré chez lui et il s'est pendu. Bon, je passe, j'ai horreur de mélanger deux histoires. Donc, ce mari et cette femme vécurent heureux un bon bout de temps. Ils se respectaient l'un l'autre bien mieux que tous les couples aristocratiques au nez dans les nuages que vous voyez aujourd'hui. Je ne vise personne. Vous pouvez penser différemment. D'ailleurs, ça m'est bien égal. Bien, retournons à nos moutons. Un beau jour, Pini, c'était son nom, rentre chez lui, se couche, reste au lit pendant 5 jours, et le sixième, plus de Pini. Qui, quoi, comment, pourquoi? En bref, il avait une enflure dans la gorge qu'il fallait ouvrir. On n'a pas ouvert, et voilà. Il y a bien des médecins sur terre. On en a amené 2 et ils se mirent à se battre l'un contre l'autre. L'un disait de couper, l'autre de ne pas couper. Pendant ce temps, le patient agonisait. « Ah, ils sont beaux, vos médecins! Si je vous fournissais la liste de tous les gens qu'ils ont envoyés dans le monde futur, vous vous arracheriez les cheveux. Ils ont même empoisonné ma sœur. Par empoisonné, je ne veux pas dire qu'ils lui ont administré une drogue quelconque. Non, je ne suis pas fou. J'entends que, au contraire, ils ne lui ont rien donné du tout. Ils ne lui ont pas fait prendre ce qu'il aurait fallu. Si on lui avait administré de la quinine à temps, cela l'aurait peut-être sauvé. Ne vous en faites pas, je connais mon monde. En bref, ils m'ont supprimé mon ami Pini. Comment pourrais-je vous décrire le sentiment de détresse que j'ai ressenti? Un père, un frère? Non, cela ne vous inspire pas une telle émotion. C'était quelque chose, Pini. Ils m'ont arraché un morceau de ma propre vie. La pitié, la catastrophe, le deuil de la veuve qui restait là avec une petite fillette sur les bras, Rosette qu'elle s'appelait, un vrai amour. Notre seul réconfort à elle et à moi. Sans Rosette, je ne crois pas que nous aurions tenu le coup. Je ne vais pas jouer la pipelette et la commère en vous racontant les mérites de la petite Rosette en long et en travers. Simplement, croyez-moi, c'est tout. Ce couple, un vrai tableau. Ils étaient beaux comme un tableau. Je ne sais qui était le plus beau des deux, elle ou lui. Pini avait du charme, Faya était ravissante. Les yeux de la petite, elle les tenait de son papa, des yeux bleus. Elle et moi, nous sommes devenus fous de la petite, je ne sais qui de nous deux l'aimait le plus. Vous demandez comment cela se peut-il? Elle, c'était sa mère, et moi, un étranger. Ça n'a rien à voir, il faut regarder plus en profondeur. Les liens que j'avais développés avec le foyer, la pitié envers la veuve et le cœur qui battait pour cette petite orpheline qui n'avait fait de mal à personne, vous voyez? Ajoutez à ça le caractère vraiment réussi de l'enfant et ma solitude à moi. Tout cela ensemble constitue ce que vous appelez psychologie. Pas la persilogie, non, la psychologie authentique. Vous allez dire que tout cela venait de ce que j'étais amoureux de la mère. J'admets que j'avais pour elle les sentiments les plus vifs. Je me serais jeté au feu pour elle, mais je ne le lui aurais jamais avoué. Pendant des nuits et des nuits, je ne pouvais trouver le sommeil. Comment lui dire? Un matin, je me lève dans l'intention de lui dire « Faya, comme ci et comme ça, prends ça comme tu veux ». « J'arrive et boum, je reste muet. Vous allez dire que je suis froussard ? Si cela vous fait plaisir. Mais il faut voir ça plus en profondeur. Pigny, c'était un vrai ami. Je l'aimais comme un frère. Alors, la question failla. Je m'adresse à moi-même. Tu viens juste de dire que tu te jetterais au feu pour elle. Justement, justement, à cause de ça, parce que je suis fou d'elle, eh bien, je ne peux pas. Je crois que vous ne pouvez pas me comprendre. Si je vous parlais de psychologie, vous saisiriez la chose. Mais quand je vous parle du fond du cœur, alors là, ça a l'air bizarre. Mais que m'importe à moi ? Pensez ce que vous voulez, je continue mon récit. La petite se met à pousser. Les enfants poussent, les arbres aussi, même les radis. Mais ne confondons pas pousser avec pousser. D'ici à ce que l'enfant se tienne assis, se mette debout, marche, court et parle, il en passe du temps. Bon, je vous épargne la rougeole, la rubéole, les dents et tout le reste. Moi, je ne suis pas une femme. Je ne vais pas vous raconter tous les bons tours de la petite. En bref, elle pousse, comment dirais-je ? Comme une rose languissante, pour employer une expression tirée des romans que composent pour vous des écrivains qui comprennent l'épanouissement des roses comme les Turcs le Talmud. Ils excellent dans l'art de s'asseoir, les pieds sur le râtelier de la cheminée, et de vous décrire la nature, les vertes forêts, la mer grondante, le sable sur le rivage, les neiges d'antan, les saules pleureurs et les jours flétris. Moi, je ne les encaisse pas, ils m'écœurent. D'ailleurs, je ne les lis même pas. Quand je prends un livre en main et que j'y vois écrit que le soleil brille enfin, que la lune se promène, que l'air s'embaume, que les oiseaux gazouillent, moi, je jette le bouquin par terre. Ça vous fait rire ? Vous trouvez que je suis dingue ? Eh bien, d'accord, quelle importance ! Bon. Donc, elle grandissait, la Rosa. On lui donna de l'instruction comme il convient à la fille d'une maison cultivée comme celle-là. La mère y mettait du sien, et moi de même, moi surtout. On peut dire que j'ai consacré tout mon temps à l'éducation de cet enfant. J'ai veillé à ce qu'elle ait le meilleur précepteur, qu'elle aille à l'heure à l'école, qu'elle en revienne à bon port, qu'elle joue du piano, qu'elle apprenne à danser, en bref, je me suis occupée de tout. Qui aurait pu faire tout cela, sinon moi ? Sans parler des affaires que sans moi, on leur aurait arraché la peau, la chair et les os. Même sans ça, tous nos petits youpins à nous l'ont pas mal exploité. Oui, je sais que l'expression « nos petits youpins » vous met en colère. Mais quoi faire si nous sommes un peuple comme ça, hein ? Vous pouvez me traiter d'antisémite, mais je suis comme ça, moi. D'ailleurs, les antisémites, ils crèveront de toutes les maladies avant d'avoir compris ce que cela veut dire qu'être juif. Les juifs, si vous me le demandez, je n'ai pas tellement affaire avec eux. Comme vous savez, j'ai mes immeubles à moi et mes boutiques qui m'assurent mes revenus, et c'est tout. Et pourtant, chaque année, j'ai mes ennuis avec les contrats à renouveler, les réparations à faire et les loyers à prélever. Et si vous pensez que les goy valent mieux ? Non. Mais on pourrait espérer un peu plus de la part des juifs, après tout. C'est le peuple élu, non ? Si vous croyez que le truc du peuple élu, ça marche avec tous ces juifs-là, vous vous trompez. Quoi ? Vous ne pouvez pas supporter de tels discours ? Moi, je ne vais pas discutailler avec vous. À votre guise, chacun ses opinions. L'avis des autres ne me dérange pas. Je sais ce que je sais, et voilà. Bien, où en étions-nous ? Ah, à nos youpins à nous. Une fois Pigny mort, toutes sortes de créatures ont sauté sur Faya. Vous aviez des sympathisants, des donneurs de bons conseils, tout ça, et ils lui ont pris tout ce qu'elle avait. Ils allaient l'écumer à fond, mais moi, j'étais là. Allez les enfants, dehors ! Et j'ai pris le contrôle des affaires. Elle m'a même proposé de nous associer, mais j'ai refusé. Vendre mes maisons, un casse-tête pareil, pas question. Elle m'a expliqué que je pouvais coopérer avec elle sans vendre mes biens. Que pensez-vous que j'ai répondu à ça ? Qu'elle ne fasse pas de nouvelles propositions dans ce sens, parce que ça m'exaspérait. Le pauvre Pigny n'avait rien fait de mal pour que je prélève un pourcentage sur ses affaires. Et à part ça, je n'avais pas besoin d'une rémunération quelconque pour le temps que je passais chez elle. J'ai du temps à en revendre. Et voilà ma veuve qui baisse les yeux et se tait. Si vous vous y entendez dans ce genre d'embrouille, vous devez avoir compris le sens de mes propos. Pourquoi ne lui ai-je pas dit les choses directement? Qui sait? Simplement, les mots ont refusé de sortir. Et pourtant, c'était plus facile que de fumer une cigarette. Un seul mot et l'affaire était faite. Mais je pensais à Pigny, des amis comme nous. Je sais ce que vous allez dire. Apparemment, ce n'était pas le grand amour entre vous. Je vous l'ai déjà dit, j'étais fou d'elle. Et de son côté, à elle, figurez-vous. Mais enfin, je me moque bien de ce que vous vous figurez. Allez, demandez qu'on apporte le thé, parce que je commence à avoir la gorge sèche, moi. Bien. Où en étions-nous, mon cher maître? Ah oui, à la question des affaires. Cette histoire-là, je ne l'oublierai jamais. On peut vous déplumer, vous emplumer, c'est rien à côté. Mais ne vous réjouissez pas si vite. Je parle d'elle, pas de moi. Moi, on aurait du mal à me plumer parce que je ne me laisse pas rouler. Mais quoi faire quand il s'agit de brigands, de bandits, de pirates, capables de faire choir de bien plus puissants que vous? Ils vous tombent sur le dos et vous mettent un genou sur le ventre jusqu'à ce qu'ils vous extorquent votre dernier sou. Moi, ils ne m'auraient pas eu si facilement, que le diable les emporte. Ils ont craché le sang avant d'arriver à nous arracher, vous savez combien? Autant qu'ils ont pu. Heureusement que je me suis reprise à temps et que j'ai dit à ma veuve « Ça suffit comme ça, il faut couper. » Et trancher à ras, surtout qu'il lui avait déjà coupé la tête à elle. Vous vous demandez comment j'ai laissé faire? J'aimerais bien vous y voir, vous, avec des chenapans pareils. Peut-être auriez-vous mieux réussi que moi, je ne dis pas. Reconnaissez que moi, je ne suis pas maître dans le boniment, pauvre de moi. Surtout que je n'ai rien du pirate, moi. Vous croyez que cela ne m'en a pas coûté? Je ne veux pas prendre l'air avantageux. Je veux juste vous raconter l'histoire, pas à pas, comment tout devait amener à ce que la veuve ne le reste pas et que moi, je ne demeure pas célibataire. Il y avait un mot, un seul, que je n'ai pas dit. Lequel, vous vous demandez? Eh bien voilà, tout est là. Voilà la psychologie authentique. Une nouvelle aventure s'ouvrait devant nous, Rosa pour la nommer. Écoutez-moi bien, parce que là, nous sortons du roman feuilleton et nous entrons dans la réalité bien vivante, bien palpitante, émergeant tout droit du cœur. Vous voyez? Je ne sais pourquoi, mais toute mère qui voit sa fille sortir des jupes courtes de l'enfance veut immédiatement la marier. Elle se remplit d'une énergie nouvelle quand elle voit des petits jeunes qui tournent autour de sa fille et elle considère tout un chacun comme un fiancé potentiel. Et si le genou n'est que rien du tout, un charlatan, un joueur, hein? Ça, elle s'en moque. Mais dans le cas présent, les charlatans restèrent dehors. Rosette, elle ne se liait pas avec des types qui pirouettent sur les talons, qui lèvent les mains et font des petites courbettes d'officiers polis. Et d'une. De deux, vous croyez que j'allais laisser n'importe quel oiseau siffler aux oreilles de Rosa ou même à sautiller à moins de 3 mètres d'elle? Celui qui aurait osé, je lui aurais brisé les os et je l'aurais transformé en un tas de cendres. Un jour, je l'ai accompagné à un bal juif, avec rien que des aristocrates, ce que vous appelez des bourgeois. Un petit jeune arrive, il plie le coude comme une anse d'arrosoir, il incline la tête de côté, il met un pied en avant, l'autre en arrière, il ouvre une bouche toute mielleuse et il lâche je ne sais quel boniment. En bref, il l'invite à danser. Ah, c'est comme ça! Il m'a piqué une danse, il ne l'oubliera pas celle-là. Comme on a ri de sa mésaventure, le malheureux! Depuis, tous les prétendants savent bien que pour atteindre Rosa, il faut d'abord s'adresser à moi, passer l'examen, et seulement après, en route. Ils m'ont baptisé Cerbère. C'est le chien qui garde l'entrée du jardin d'Éden. Ça m'a coûté bien cher. Vous savez qui a éclaté ? La mère, figurez-vous. Je mets les gens à la porte de chez moi, maintenant, qu'elle dit. Quels gens? Ce ne sont pas des gens, ce sont des bêtes féroces. Une fois, deux fois. À la troisième, ça a tourné à la catastrophe. Vous croyez que nous nous sommes disputés? Vous avez de l'esprit, mais là, vous vous trompez. Au lieu de jouer aux devinettes, écoutez un peu. Un jour, j'entre chez ma veuve et je trouve un jeune homme, 20 ou 30 ans. Il y a des gens comme ça, vous ne pourrez jamais leur donner un âge. J'avoue qu'il avait bonne mine. Il y a des gens sympathiques, avec un bon visage, de 12 yeux, rien à dire. Il m'a plu tout de suite. Vous savez pourquoi? Parce que moi, j'ai horreur des gens mielleux avec le visage en sucre. Je ne peux les supporter, ces gens doucereux qui vous regardent gentiment dans la bouche et disent « oui » à tout propos. Ils sont toujours d'accord avec vous à propos des neiges de juillet, des poissons qui poussent sur les vignes, tout ce que vous voulez. Moi, les types de ce genre, j'ai envie de les plonger dans le miel et que les abeilles se régalent. Vous voulez savoir comment ils s'appelaient? Quelle importance! Bon, disons qu'ils s'appelaient Chapiro, c'est tout. Vous êtes content maintenant? Il était comptable dans une maison qui fabrique des boissons fortes. En fait, il tenait plutôt du propriétaire, vu que c'est lui qui commandait dans l'établissement. D'ailleurs, un propriétaire qui n'a pas confiance en ses employés n'a pas le droit qu'on l'appelle propriétaire. Vous pouvez penser le contraire, ça m'est bien égal. Bon, on me présente un jeune homme nommé Chapiro, qui est comptable et à moitié patron, et a l'air honnête. De plus, il joue pas mal aux échecs, presque mieux que moi même. Vous pouvez estimer qu'il me mettait là si ça vous chante. Je vous ai déjà dit que je ne suis pas maître aux échecs. Maintenant, allez deviner qu'il va y avoir là un de ses romans. Un roman drôlement dangereux. Ah, quel cheval j'ai été! Comment n'ai-je pas vu tout de suite? J'ai même mis de l'huile sur le feu. J'en ai fait le plus grand éloge. Que les échecs soient brûlés en enfer, eux et ceux qui y jouent. En bref, j'ai joué avec lui, je lui ai piqué sa reine, et lui, il m'a piqué Rosa. Je lui ai fait échec et mat en 10 coups, et lui en 3. Le 4e jour, la veuve m'appelle, et des flammes dans les yeux, elle m'explique que tout est fait et que Rosa est désormais fiancée à ce Chapiro, qu'elle est aux anges, et Mazel Tov à elle, à moi et à nous. Ce qui arriva alors, je ne vous le raconterai pas. Vous diriez que je suis fou à lier, complètement dérangé. C'est d'ailleurs ce que la veuve a déclaré. Au début, elle a ri, après elle a crié, finalement, elle a éclaté en sanglots. Ça a tourné à la conflagration générale. Le pu a commencé à sortir et nous avons échangé les propos les plus acerbes. En 10 minutes, nous nous sommes dit plus de vérité que pendant plus de 20 ans de connaissance. Je lui ai annoncé qu'elle était ma faucheuse, qu'elle m'avait égorgé sans couteau, qu'elle m'avait pris mon seul réconfort, qu'elle m'avait arraché mon âme, Rosa, et qu'elle l'avait livrée à un autre. À quoi elle a répondu que de nous deux, le démon c'était moi, que si quelqu'un avait arraché l'âme à l'autre, c'était moi à elle, et pas d'un seul coup, mais petit à petit, pendant plus de 18 ans. Le sens de ces paroles, le pire idiot l'aurait compris, non ? Je ne vous ferai pas part de ce que j'ai répondu à tout cela. Sachez seulement que je ne me suis certes pas comporté en gentleman. Vous pouvez même en conclure que j'ai agi avec beaucoup, beaucoup de grossièreté. J'ai pris mon chapeau, j'ai claqué la porte et j'ai détalé comme un détraqué. J'ai juré de ne jamais remettre les pieds dans cette maison. Qu'en pensez-vous? Vous aimez tirer des conclusions, vous? Qu'en dit votre psychologie? Hein? J'aurais dû me foutre à l'eau, acheter un revolver, me pendre à un poirier. Non, je ne me suis pas noyé, je ne me suis pas tiré dessus, je ne me suis pas pendu, comme vous voyez. Bon, la suite, croyez-moi, je peux la garder pour la prochaine fois, vous n'en mourrez pas. Je dois me rendre chez mes veuves, elles m'attendent pour le déjeuner. Veuve 2. Pourquoi je vous ai laissé attendre si longtemps? Parce que ça me plaisait. Quand je raconte une histoire, moi, je le fais pour mon plaisir, pas pour celui des autres. Je me doute bien de ce qui vous intéresse, mais moi, Je n'aime pas les histoires dans les autres histoires. Moi, j'aime entendre ça après un bon repas, assis dans mon fauteuil, un cigare à la bouche. Et que m'importe si celui qui raconte l'histoire crache le sang pour moi? Non, je ne dis pas ça pour vous, bien sûr. Vous, vous écoutez ce qu'on vous dit, voilà tout. Maintenant, l'affaire que je vais vous conter ici n'a rien à voir avec la précédente. Cependant, je vous demanderai de garder l'autre présente à l'esprit, car il y a quand même un certain lien entre elles, je dirais même un lien certain. Bon, si vous avez oublié quelque chose, je vous rappellerai le tout. En trois mots, je résume. J'avais un ami du nom de Pini. Il avait une femme qui s'appelait Faya. Ils avaient une fille nommée Rosa. Mon ami est mort, sa femme est restée veuve, et moi j'étais constamment fourré chez elle, vu que je l'aimais à la folie. Mais je ne le lui ai jamais dit. La fille a grandi. Arrive un comptable du nom de Chapiro qui joue aux échecs avec moi et qui pince notre Rosa. Je pique une colère après la mère, je claque la porte et je me jure de ne jamais revenir. Vous voilà satisfait, je pense. Maintenant, vous vous demandez si j'ai tenu parole ou non. Dites vous-même, vous qui êtes psychologue, aurais-je dû ou non tenir ma parole? Vous ne répondez pas, hein? Vous n'avez pas de réponse, tout simplement. Voilà exactement ce qui arriva. J'ai couru toute la nuit comme un fou. J'ai parcouru trois fois toutes les rues de la ville, en long et en large. Chez moi, je suis arrivé à l'aube. J'ai mis le nez dans mes papiers. J'en ai déchiré plus de la moitié. J'ai horreur de la vieille paperasserie. J'ai horreur de la vieille paperasserie. J'ai fait mes paquets, j'ai écrit quelques lettres à quelques rares amis. Vu que je suis seul comme un arbre dans le désert, j'ai donné des instructions concernant mes maisons et mes affaires, et je me suis assis sur mon lit, la tête entre les mains. Et j'ai réfléchi, encore réfléchi, toujours réfléchi jusqu'au matin. Je me suis levé, je me suis lavé à fond, et j'ai pris le chemin de ma veuve. J'ai sonné, je suis entré, j'ai demandé qu'on me fasse un café avant que la veuve ne sorte du lit. Enfin, elle s'est levée et elle s'est plantée devant moi sans mot dire. Elle avait les yeux gonflés et le visage pâle. Apparemment, elle non plus n'avait pas tellement dormi cette nuit-là. Les trois premiers mots qui sortirent de ma bouche furent « Comment va Rosa ?» Je termine à peine ma question que l'intéressée apparaît, belle comme le jour, lumineuse comme le soleil et bonne comme le bon Dieu en personne. Elle me regarde un moment, rougit un peu, me passe sa petite main sur la tête comme on fait à un enfant, et finalement elle éclate de rire. Mais pas pour vous humilier, non, juste pour vous communiquer son rire et que tout le monde éclate de rire aussi, y compris les murs. Oui, cher maître, elle est comme ça, cette Rosa, aujourd'hui encore. Même aujourd'hui, je donnerais tout l'or du monde pour son rire. L'ennui, c'est qu'avec les malheurs qui l'accablent aujourd'hui, elle n'a plus tellement envie de rire. Mais j'ai horreur qu'on mette la charrue avant les bœufs. Moi, j'aime l'ordre, alors je procède par ordre. Avez-vous jamais porté à votre bouche le goût des noces d'une fille? Non, cela ne vous dit rien? Moi, j'y ai goûté. Et pour longtemps, je vous le jure. Parce que la veuve, la Faya, elle aime recevoir tout sur un plateau d'argent. La faute à qui? À moi, pardi, vu que c'est moi qui les ai dressées à ça, la fille comme la mère. Si elles ont besoin de quelque chose, à qui on fait appel? À moi, et cela doit s'arranger dans les 2 heures. On arrive chez moi pour de l'argent, pour un médecin, pour engager une cuisinière, un maître de danse, pour un vêtement, un soulier, un tailleur, un boucher, une plume, un saule pleureur, une besace, tout sur mon dos. Vous pensez que je ne leur ai jamais dit où tout cela les mènerait? Bien évidemment. Mais ça les fait rire. Tout les fait rire. La vie se résume au rire. Et il y a des gens comme ça. Pas beaucoup, mais il y en a. Et qui trinque? Moi. Qui doit servir de chaperon à des enfants étrangers? Moi. Qui doit danser aux noces des autres? Moi. Qui doit pleurer sur la tombe d'autrui? Moi. Vous allez me demander qui m'oblige à tout ça? Je vous répondrai... Ça, je vous répondrai. Qui vous oblige à courir dans le feu pour sauver l'enfant d'un autre? Qui vous force à sauter à l'eau pour sauver l'homme qui se noie? Pourquoi tordez-vous le visage quand l'autre souffre? Vous allez me dire que vous ne courez pas, que vous ne sautez pas et que vous ne tordez pas le visage? Eh bien, vous n'êtes qu'une bête féroce. Moi, je ne suis pas une bête, moi, mais un homme. Je ne joue pas les idéalistes, moi. Je suis quelqu'un de tout à fait ordinaire et célibataire, voilà. Et cela, bien que votre psychologie, à vous, prétende qu'un vieux célibataire, c'est synonyme d'égoïste. Peut-être que cette affirmation elle-même dénote l'égoïsme, hein? Vous prétendez avoir horreur de la recherche philosophique? Moi aussi, j'en ai horreur. Donc, il faut nous marier, notre Rosa et moi, je dois me déguiser en beau-père. Vous qui me connaissez, vous imaginez comme la situation m'amuse? Le terme « beau-père » me dégoûte. Appelez-moi garçon de course, commissionnaire, larbin, casse-noisette, mais ne m'appelez pas beau-père. Or, voilà que ma veuve se trouve très bien dans la peau de la belle-mère. Appelez-la belle-maman, elle se pâme de plaisir. Eh bien, te voilà belle-mère, hein? Et elle s'enfle comme un pruneau dans un verre d'eau-de-vie. Et le plus vite sera le mieux, qu'elle rétorque. Ah, si vous l'aviez vue au mariage de sa fille! Quel tableau! Belle, jeune! Vous auriez eu du mal à distinguer la fille de la mère. Je la regarde sous le dé, avec tous les petits gamins qui tournent autour, et je me dis « Espèce d'idiot, pauvre pierre qui roule, tu n'as qu'un mot à dire et tu ne seras plus une pauvre pierre qui roule. Tu n'as qu'à bâtir ta maison, planter ta vigne, entrer dans ton paradis. Tu peux vivre une vie simple, entre des gens gentils. Enlève-toi cette Rosa de la tête, elle n'est pas pour toi. Rosa, c'est une petite fille, ne te leurre pas. Parle à Faya, dis-lui, espèce d'âne bâtée, dis-lui à elle et à personne d'autre. Quoi, tu ne vois pas ses yeux ? » Et mon regard croise celui de Faya. Mon cœur s'emplit de pitié pour elle, de pitié, je vous dis, rien que de la pitié. Autrefois, il y avait un autre sentiment. Maintenant, il ne reste que la pitié. Et qui sait, peut-être moi aussi je mérite la pitié, et peut-être davantage encore. Pourquoi n'a-t-elle jamais rien dit ? Et pourquoi ne dit-elle rien encore maintenant ? Pourquoi ce serait à moi de parler et non à elle ? La timidité, vous allez dire ? La coutume ? Laissez-moi rire ! Pour moi, cela ne fait pas de différence si c'est elle ou moi qui parle le premier. Les êtres humains, ce sont des êtres humains. Si elle se tait, alors moi aussi. Appelez ça de l'entêtement, de la gloriole, de la folie, ça m'est bien égal. Je vous raconte tout ça, moi, pour que vous m'aidiez à trouver l'épine. Et puis, cela provient peut-être du fait que nous n'ayons jamais été seuls une minute, elle et moi. Il y a toujours eu entre nous une personne supplémentaire qui nous prenait tout le temps les pensées et les sentiments. Tout appartenait à l'autre, pas à nous. Pas une seconde à nous, de par le diable. Comme si nous étions faits pour les autres. D'abord Pini, ensuite Rojetchka, et maintenant un gendre qui allait manger à notre table. Et quel gendre ! Comme on n'en trouve pas deux comme lui. Vous savez que moi, je ne m'emballe pas facilement. Je ne vous casserai pas les oreilles avec des louanges, des sons de trompette, des hymnes nationaux, non. Je vous dirai juste que le terme d'ange serait une humiliation pour ce beau garçon. Si les anges qui se promènent au ciel ressemblent tant soit peu à ce Shapiro, alors il vaut mieux passer son existence en leur présence et pas avec toutes sortes de bipèdes qui pourrissent l'atmosphère sous le ciel divin. Vous allez me traiter de misanthrope, hein? Mais si les humains vous avaient fait à vous la moitié de ce qu'ils nous ont fait à nous, je vous jure que vous deviendriez non seulement misanthrope, mais encore assassin. Vous vous promèneriez dans les rues, un couteau à la main, et vous égorgeriez les gens comme des moutons. Dites donc, c'est quoi cette manie de laisser parler les gens pendant 2 heures sans leur demander s'ils veulent un verre d'eau ? Demandez qu'on apporte du thé. Donc, de quoi parlions-nous déjà ? Ah, de Shapiro, le comptable de la fabrique de spiritueux qui tenait les clés de la maison dans sa main. Il n'y avait pas de limite à la confiance qu'on lui accordait là-bas. On le considérait comme un fils. La preuve en est qu'au mariage, ses patrons étaient là, deux brigands associés, qu'ils me pardonnent car ils sont dans l'autre monde, je veux dire en Amérique. Les patrons donnent en cadeau aux gendres un beau coffret d'argenterie et tout le monde les regarde comme de véritables philanthropes. Moi, j'aime bien les gens qui sont non seulement des philanthropes, mais en plus des propriétaires et qui arrivent au mariage où ils se conduisent à la fois comme l'un et comme l'autre. D'autant qu'ils semblent estimer leur employé, lequel a contribué largement à faire d'eux des propriétaires et des philanthropes. Vous souriez pour rien, cher maître. Moi, je ne me prétends pas socialiste. Mais moi, j'ai horreur des propriétaires qui se prennent pour des philanthropes. Quel mal à ça, hein ? Tenez, écoutez un peu ce dont est capable un propriétaire philanthrope. Supposons que, grâce à Dieu, vous ayez une affaire à vous qui vous rapporte des mille et des cents, avec un employé modèle en qui vous avez pleine confiance et qui veille sur votre sommeil. De plus, imaginons que cela vous permette de vous rendre à l'étranger pour y passer du bon temps. Mais c'est compter sans nos petits youpins à nous. Je sais que vous n'aimez pas l'expression, mais je parle bien de nos petits youpins à nous. Ils ne se contentent jamais de rien, il leur faut des affaires. Ils doivent planer, faire du bruit, attirer l'attention, tout ça. Les propriétaires de Shapiro ne se contentent pas d'avoir une entreprise en or tenue par un garçon tel que lui. Ils ont mis les pieds dans un de ces bourbiers. Ils ont commencé à s'occuper de ventes aux enchères et d'immobilier, de troc et finalement de location. Le marché a commencé à gonfler et le prix des maisons a grimpé comme les flammes d'un incendie de forêt et eux avec. Finalement, ils s'en sont sortis tout rôtis et ils ont fait griller Shapiro avec eux à l'aide de chèques pourris. Ils ont ramassé tout l'argent comptant contenu dans les caisses et ils ont décampé pour l'Amérique. Il paraît qu'ils se débrouillent all right, comme on dit dans la langue américaine. Quant à Shapiro, ils l'ont laissé dans la boue et dans les dettes avec des signatures de garantie et de caution par-dessus la tête. Tout cela a provoqué un énorme scandale au point que les créanciers ne s'intéressent plus de savoir si le pauvre garçon est employé ou patron. Ils exigent de lui des dédommagements. Et comme il n'a pas les moyens de les satisfaire, alors le voilà en faillite. Ajoutez à ça qu'il ne peut prouver que la faillite provient d'un cas de force majeure. Alors le voilà en faillite criminelle, comme vous savez peut-être, ou peut-être pas. Or, quand vous passez pour criminel, votre place se trouve tout naturellement en prison, parce que le public, lui, il a horreur des criminels. Vous avez le droit de faire faillite 10 fois, 10 fois, vous entendez ? Maintenant, si vous le faites selon les règles, sous contrôle, je veux dire, alors vous pouvez dire au public « va te faire foutre ». Pardonnez-moi l'expression. Dans ce cas, vous vous achetez une jolie maison avec le fric que vous prétendez ne pas avoir. Tout le monde vous admire. On vous propose les meilleures parties en mariage. Vous avez pignon sur rue. Vous écrasez tout le monde et vous vous accoquinez avec les grands de ce monde qui mènent les autres par le bout du nez. Vous vous persuadez qu'il n'y en a pas deux comme vous. Vous vous pavanez comme un dindon. Enfin, vous ne reconnaissez plus les autres et vous êtes sûr que vous, le vent ne vous emportera jamais. Ne vous insurgez pas. Je ne parlais pas pour vous, vous comprenez bien. En bref, notre garçon, Shapiro, n'a pas pu supporter la honte. De plus, voir les veuves et les pauvres orphelins, cela lui faisait mal au cœur, parce que ses patrons, ils n'avaient aucun scrupule. Ils ont pris à tout le monde. Alors lui, il s'est empoisonné. Je suppose que vous n'insistez pas pour savoir avec quelle drogue il a fait ça et ce que contenait la lettre qu'il m'a écrite, la façon dont il s'est séparé de Rosa, de sa mère et de moi-même. Tout ça, ce sont des sentiments qu'utilisent les romanciers pour tirer des larmes de leurs veaux de lecteurs. En deux mots, le malheureux ne s'est pas seulement suicidé, mais il nous a tous empoisonnés avec lui. La catastrophe prit une telle ampleur, la douleur une telle profondeur, la souffrance une telle acuité, qu'aucune larme ne coula de nos trois pères Dieu. Nous avons gelé sur place, nous avons pris le deuil, nous avons succombé, nous sommes tombés la face contre terre. Nous aurions été les plus heureux si quelqu'un nous avait tranché la gorge à tous d'un seul coup de couteau. Vous pouvez dire ce que vous voulez, vous ne pouvez regarder en face les gens qui viennent vous consoler, avec leur mine de circonstance et leur air de dire « Heureusement que c'est à vous que ça arrive, et pas à moi. » Ajoutez à ça leurs paroles creuses et vides de sens, leurs éloges hypocrites, leur départ précipité sans dire au revoir, avec un petit reniflement de sympathie. Sans parler du livre de Job que tout ignorant est censé consulter, comme un coq regarde les humains. Lui aussi, il me porte sur les nerfs. Paroles hérétiques, vous dites ? Vous appelez ça de l'hérésie ? Causer la perte d'un innocent, le faire signer des chèques sans provision, disparaître avec l'argent et laisser l'employé s'empoisonner, abandonnant derrière lui trois âmes en peine qui n'ont rien fait ? Comment vous appelez ça, vous ? Vous trouvez que c'est du blasphème, vous ? Non, n'est-ce pas ? Et vous ne croyez pas que c'est un peu cruel de la part du bon Dieu, un truc pareil ? Parce que, voyez-vous, on peut lui poser des questions à lui aussi, après tout. La preuve, ce que dit le sacré Job lui-même, dont on doit consulter le livre, comme les coqs, les humains. Vous vous taisez, hein ? Moi non plus, je n'ai rien à dire. D'ailleurs, même si vous l'ouvrez, personne ne vous donnera la répartie. Vous allez mâcher et remâcher les paroles de circonstance. Dieu a donné, Dieu a repris. Et vous n'aurez rien à ajouter. Qu'en pensez-vous ? Philosopher, c'est comme mâcher de la paille. Oui, c'est aussi mon avis. Bon, nous revenons à ma veuve. Que dis-je, ma veuve ? À mes deux veuves. Rosa aussi, elle est veuve. Ha ha ! C'est si triste ! Cela fait un tel affront à la nature qu'on ne peut qu'en rire. Rosa, veuve. Si vous l'aviez vue. Une fillette de 15 ans n'aurait pas eu l'air plus jeune. Rosa, veuve ? Rosa, mère. Eh oui, mère d'une petite fille. 3 mois après la mort de Shapiro, la maison s'emplit des piaillements d'un nouveau-né. Faïgélé, Loisel, qu'elles l'ont appelé. Et voilà la petite pie qui mène toute la maison, laquelle ne vit que pour elle. Que vous soyez debout, assis ou en mouvement, partout, partout, faïgélé, faïgélé, faïgélé. Si vous croyez à la Providence, comment vous appelez ça ? Vous auriez dit que Faïgelé nous dédommageait de toutes nos souffrances. Dieu nous l'avait envoyé comme source de réconfort. Mais, comme vous me voyez, je ne suis pas tellement croyant, vous non plus d'ailleurs. Comment ? Vous prétendez le contraire ? Je n'ai rien contre, mais à condition que vous vous regardiez bien en face sans hypocrisie. Parce que moi, j'ai horreur de l'hypocrisie, comme les Juifs ont horreur du cochon. Les croyants, je veux bien qu'ils aient de la sagesse comme 10 000 cervelles, mais il se peut aussi qu'ils portent sur le visage un masque de tartuffe. Et dans ce cas, eh bien, qu'ils aillent au diable. Je suis comme ça, moi. Bien, où en étions-nous ? Ah, Faïgélé. Dès qu'elle apparut sur notre horizon, la vie revint avec son sourire et sa joie. La couleur revint au visage et le brillant aux yeux. Ce fut comme une nouvelle naissance, pour nous comme pour elle. Je vais vous dire, Rosa qui n'avait pas ri depuis si longtemps, la voilà qui se met à rire, avec son rire bizarre et communicatif. Et vous éclatez de rire, alors que vous avez envie d'éclater en sanglots. Et voilà la Faïgélé qui ouvre les yeux et commence à nous regarder tous les trois, tout en montrant des premiers signes de compréhension. Et quand le premier sourire apparut, les deux veuves faillirent presque en perdre la raison. Elle me saute dessus. « Où étais-tu il y a une seconde ?» me demandent mes deux veuves. « Qu'y a-t-il ? » Il y a 1 minute et demie, Faïgélé a fait entendre son premier rire. « C'est tout ?» À vrai dire, je jouais les indifférents, mais le cœur y était quand même, comme d'habitude. Pas tellement à cause du premier rire de Faïgélé, d'ailleurs, mais plutôt parce que cela me faisait plaisir de voir mes deux veuves en joie. Imaginez le tintamarre quand la première dent a percé. La première à s'en apercevoir, évidemment, ce fut la jeune veuve, la mère. Elle a immédiatement appelé la moins jeune, Faya, je veux dire, et elles se sont mises en devoir d'étudier la question à l'aide d'un cure-dent. Quand elles ont entendu le choc du bois sur la petite quenotte, elles ont fait un boucan du diable qui m'a fait sortir de l'autre chambre. Quoi encore ? Une dent ! Vous vous méprenez, que je dis juste pour les agacer. Toutes les deux ensemble me prennent le doigt et l'introduisent dans la petite bouche chaude de Faïgélé où je sens une petite boursouflure qui pourrait bien ressembler à une dent naissante. Alors ? Elles espèrent que je vais leur donner le bonjour de la petite dent. Moi, comme j'aime les agacer, je demande « Quoi, alors ? N'est-ce pas qu'il y a une dent ? Évidemment qu'il y a une dent. Donc, s'il y a une dent, conclusion, la faille gelée, c'est un génie, comme il n'y en a pas deux comme ça sur Terre. Et un pareil génie, il a droit à des embrassades d'une telle longueur qu'à la fin, faille gelée se met à brailler. Je la leur arrache des bras et je la berce pour la calmer. Les enfants ne se calment que chez moi. Et s'il y a des cheveux que faille gelée aime tirer, c'est les miens, pardi. Et mon nez, c'est son nez préféré pour le pincer entre ses petits doigts. Vous n'avez pas idée quel bonheur c'est que de se voir pincer le nez par ses petits membres délicats. Vous voudriez les embrasser phalange après phalange. Vous vous dites que dans le corps de cet homme réside une âme de femme, hein ? Sinon, il n'aimerait pas tellement les enfants. Et alors ? N'est-ce pas que j'ai deviné et que c'est ce que vous pensez ? À vrai dire, je ne sais pas quelle âme j'ai dans le corps, mais c'est vrai que j'aime les enfants. Qui voulez-vous que j'aime ? Tous vos adultes, avec leur gros ventre et leur double menton, et qui n'ont de goût que pour leur déjeuner, leurs cigares et leurs petites parties de préférence. Vous voulez que j'aime ce genre de gens? Ceux qui s'occupent du bien public, ceux qui en vivent, ceux qui traversent le monde en braillant et en gesticulant, tout en criant qu'ils ne veulent que le bien public. À moins que vous ne préfériez que je porte mon affection sur ces petits jeunes-là qui n'ont pour but que de redresser un monde tordu, ceux qui me traitent de bourgeois et exigent que je vende mes maisons pour partager le bénéfice avec moi au nom de l'expropriation. Peut-être voudriez-vous que j'apprécie les grosses rombières qui n'ont pour idéal que la bouffe, les beaux habits, les bijoux, le théâtre et la conquête des autres hommes. Ou encore les vieilles vierges aux cheveux courts qu'on appelait autrefois nihilistes et portent aujourd'hui le titre de S et Sobiote ou Social Révolu ou Démocrate. Vous voulez sans doute objecter que je suis un vieux célibataire et par conséquent colérique et misanthrope et en conséquence que personne ne trouve grâce à mes yeux. Ce que vous allez objecter m'est d'ailleurs bien égal. Moi, je mène mon chemin, à savoir, je raconte. Donc, où en étions-nous ? À faille gelée et au bonheur qu'elle semait autour d'elle. Nous revivions tous les trois grâce à elle. Elle nous insufflait un nouveau souffle de vie et nous rendait l'existence presque douce. Elle nous donnait la force nécessaire à supporter un monde mauvais et poussiéreux. Pour moi, elle constituait un secret et une énigme. Vous, vous n'aurez pas de mal à la résoudre, vu que vous savez déjà ce que signifiait faille gelée pour moi. Plus elle poussait et grandissait, plus je commençais à croire que bientôt arriverait le terme à mes malheurs et à mon deuil. Ce même espoir remplissait pareillement le cœur de Faya. Bien que nous n'en ayons jamais parlé auparavant, c'était clair pour nous trois que cela se passerait ainsi. Vous allez demander, comment peut-on saisir le fond de la pensée de l'autre sans parler avec lui ? Cela prouve juste que vous vous y entendez en psychologie, mais pas en âme humaine. Tenez, je vais vous faire un croquis d'où il ressort que l'on peut communiquer avec les gens même sans mots, mais par allusion seulement. Voilà, par une belle nuit d'été, le firmament se recouvre de traînées blanches comme le lait. Je veux dire que des tas d'étoiles brillent, s'écrasent et se chamaillent, c'est écrit dans un bouquin quelque part, mais je ne veux pas empiéter sur les plates-bandes des autres. Comme je vous l'ai dit, j'ai horreur de leur description de la nature. D'ailleurs, ça ressemble à la nature comme je ressemble à un pacha turc. En bref, c'était une nuit d'été, une de ces nuits rarissimes, chaudes, pures, merveilleuses, qui remplissent de leur chant le cœur de l'homme le plus endurci du monde, au point qu'il a la nostalgie d'un lointain autre part dont il ignore lui-même l'emplacement. De tous côtés, il ressent comme un flux sacré qui l'inonde. Il sombre dans un recul empreint de silence et de sainteté. Il contemple ce dôme d'un bleu profond qu'on appelle le ciel. Il sent que le ciel et la terre se meuvent d'un commun mouvement, qu'ils entretiennent entre eux un dialogue secret, éternel, infini, et enfin ce que les gens appellent divin. Alors, que dites-vous de ma description à moi de la nature, hein ? Ça ne vous va pas ? Tant pis. Bon, je fonce, nous n'en avons pas encore terminé. J'ai oublié de vous parler des papillons de nuit, insectes bizarres, lourds et opaques, qui se meuvent dans les ténèbres, remuent les ailes, bourdonnent et se cognent aux murs ou aux fenêtres avant de tomber à terre, les ailes à moitié déployées, et de se taire. Mais ne vous inquiétez pas, ils vont bien vite se relever, étendre à nouveau les ailes et tourner une fois de plus autour de la lumière de la bougie avant de se cogner à nouveau à la vitre et de retomber par terre. Donc, nous voilà tous les quatre sur la galerie qui donne sur le jardin, moi, Faya, Rosa et Faégelée. La petite aura 4 ans en septembre et elle babille comme une vieille pipelette. Elle pose des milliers de questions. Pourquoi le ciel est-il le ciel et pourquoi la terre la terre? Pourquoi y a-t-il un jour et une nuit? Pourquoi le jour tombe-t-il pendant le jour et la nuit pendant la nuit? Pourquoi maman appelle mémé mémé? Mais mémé appelle maman Rosa. Et pourquoi, moi, on m'appelle Diadia et pas papa? Pourquoi Diadia regarde mémé, mémé regarde maman et maman rougit? Et ça nous fait tous rire. Alors Faïjolet demande pourquoi nous rions et cela ne fait qu'augmenter l'hilarité. Alors nous, on se regarde tous les uns les autres et nous comprenons exactement de quoi il s'agit. Les mots n'ont plus leur place ici. Les mots, on les a inventés pour les bavards, les femmes et les avocats, ou, comme disait Bismarck, les mots sont faits pour cacher nos pensées. De fait, les mammifères, les oiseaux et tout le reste, ils se débrouillent très bien sans mots. Un arbre pousse, une fleur éclot, un brin d'herbe se détache du sol, et tous embrassent les rayons du soleil. Quelle langue parle-t-il ? Celle des yeux, mon cher maître. Les yeux, c'est l'essentiel chez les humains. Ce que les yeux peuvent exprimer en une seconde, il faudra parfois un jour entier à la bouche pour le dire. Les regards que nous avons échangés cette nuit-là, moi et mes deux veuves, c'était comme un chapitre de la Bible, comme une page de notre vie. Si vous voulez, c'était comme un cantique, un poème qui racontait l'histoire de 3 âmes flétries qui n'avaient pu accéder à cette source qu'on appelle le bonheur, boire à cette fontaine qu'on nomme l'amour. Le mot « amour » m'a échappé. Ce mot me dégoûte, et vous savez pourquoi? Parce que vos écrivains emploient à tout bout de champ ce terme sacré et ils en font un plat quotidien. L'emploi du mot « amour » dans la bouche de vos auteurs favoris tient du blasphème, entendez-vous? Le vocable « amour », cela se déverse lentement, comme une prière qu'on adresse à Dieu, comme une chanson sans paroles qui coule le long d'une poésie authentique et non rimée. Courir, mourir. Toucher, loucher. Regard, hagard. Encensoir, balançoire. J'en passe et des meilleurs. Quand je lis tout ça, j'ai l'impression de bouffer des petits pois et de me torcher avec une serviette en papier. L'image ne vous plaît peut-être pas, mais ce n'est pas une raison pour faire cette grimace. Bon, je vais terminer l'histoire de la veuve numéro 2, parce que moi, j'ai horreur de voir les gens me bâiller au nez. Dites voir, avez-vous jamais éprouvé le besoin de vous arracher une dent tout en repoussant la décision au lendemain ou à la semaine suivante? Alors vous allez chez le dentiste. Sur sa porte, on peut lire « Ouvert de 8h à 1h et de 1h à 8h ». Alors vous consultez votre montre. De 8 à 1 et de 1 à 8, pourquoi je me presse tellement? Et vous rentrez chez vous. Mais ça continue à faire mal. Eh bien, c'est exactement ce qui m'est arrivé avec Rosa. Chaque matin, je sortais avec la ferme intention qu'aujourd'hui serait le jour J. D'abord, je parlerais à la mère, comme ci et comme ça. Ensuite, elle rougirait tout en baissant les yeux. Puis, elle annoncerait « Pour ma part, je suis d'accord, mais va parler à Rosa. » Je quitterai donc la veuve numéro 1 pour la veuve numéro 2 et je lui parlerai ainsi. « Ma chère Rosa, comme ci et comme ça. » Je prends mon chapeau et je me rends chez mes deux veuves. Faïgelée arrive en courant, me saute au cou, embrasse mes lunettes et me demande de dire à petite maman et à petite mémé de libérer la petite Faïgelée aujourd'hui, rien qu'aujourd'hui, de l'étude, de la musique et de la danse, et la laisser aller avec Diadia au zoo. Il paraît qu'on y a amené des singes, de quoi mourir de rire. « J'aimerais vous y voir, vous, le fortiche, résister à cette pression-là. »« Comment ça? Vous n'iriez pas au zoo voir des singes en crevés de rire, vous ?» La veuve numéro un se met à râler. « Mais qu'a-t-elle donc dans la tête, cette petite ?» La veuve numéro deux arrive en renfort. « Il va nous la gâter, cet enfant !» Et Diadia, il fait la sourde oreille et il emmène la gamine au zoo pour y regarder les nouveaux singes, de quoi mourir de rire. Et cela recommence à chaque fois sous de nouveaux prétextes. Un jour passe, une semaine, une autre, un an et encore un autre. La petite grandit, commence à comprendre les choses dont on ne parle pas, et nous autres, nous décidons de la laisser grandir tranquille. Lorsque Faïgelée sera grande et qu'elle mènera sa propre barque, alors nous autres, nous songerons à reconstruire notre foyer. Et chacun de nous trame des rêves sur la façon dont nous allons tous vivre ensemble, Faïgelée et son fiancé, Rosa et moi, et la grand-mère Faya qui fera marcher tout le monde à la baguette. La grande question demeure encore. À quand la fête? Quand Faïgelée sera-t-elle assez grande pour mener sa barque et prendre le fiancé de son choix? Quand? Quand le temps sera venu. Personnellement, j'ai horreur des adages de ce genre. Et vous? D'ailleurs, ça m'est bien égal. Donc, le temps venu. Or, le temps vint. Faïgelée grandit assez pour mener sa barque et prendre un fiancé. Et nous y voilà. C'est ici que commence la vraie psychologie, comme vous l'appelez. Inutile de regarder votre montre comme ça. De toute façon, aujourd'hui, je n'ai pas le temps de vous terminer l'histoire. Je dois m'en aller. Mes veuves vont se demander ce qui m'est arrivé. Si vous voulez entendre l'histoire de la veuve numéro 3, je vous invite à venir chez moi. Sinon, bonsoir, je ne force personne. Venez quand vous voudrez. À bientôt. Veuve 3. Vous avez bien fait de venir me trouver alors que je suis chez moi. En fait, je suis toujours chez moi. Enfin, j'y suis pour moi, pas pour les autres. Chacun ses habitudes. Moi, par exemple, je mange toujours avec ma chatte en face de moi. Autrement, je ne mange pas. Minou, Minou! Que dites-vous de ma chatte? Elle a une cervelle, une intelligence. Elle ne prendra jamais rien sans permission, même pas de l'or massif. Quelle merveille, hein? Quoi? Vous n'aimez pas les chats? Préjugé du jardin d'enfants, on connaît ça. Vous n'avez pas à vous excuser. Vous prenez du lait dans votre thé? Non, nature? Moi, je le prends avec du lait. Oh, sale bête, va! Nom d'un chien! Elle ne peut résister au lait. Mettez-lui du beurre sous le nez, elle n'y touchera pas, mais du lait... Regardez, vous savez que je n'aime pas les mauvaises manières. Mais là, je dois vous le dire, j'ai horreur qu'on sourie. Riez tant que vous voudrez, mais sourire, ça, non. Vous vous souvenez de tout ce que je vous ai raconté? Sinon, il n'y a pas de honte, cela arrive à des gens bien supérieurs à nous tous. Mais je juge bon de vous résumer l'histoire de façon à bien remettre les choses en place. J'avais un ami, Pini. Il avait une femme, Faya. Ils avaient une fille, Rosa. Pini mort, Faya reste veuve. Moi, je deviens l'amie de la maison. Elle avait mon cœur, j'avais le sien, mais on ne parlait pas de ces choses-là. Le cœur se taisait et les années ont passé. La fille, Rosa, a grandi et je l'aimais à la folie. Arrive un jeune type, Chapiro, comptable et joueur d'échecs passable. Rosa s'en amourache. Moi, je me dispute avec la mère, je claque la porte et je déclare qu'on ne me reverra plus jamais dans la maison. Je ne tiens pas parole et dès le lendemain, je refais mon apparition et je redeviens l'ami éternel de la maison. Je joue le beau papa et j'organise le mariage de Rosa avec Chapiro qui tenait les affaires de ses patrons et signe les chèques pour eux. Eux, ils se sauvent en Amérique avec l'argent et le laissent avec les dettes. Ils se suicident et Rosa reste veuve. Et de deux. Comme sa mère Faya qui était restée avec une petite fille, de même, Rosa, après la mort de Chapiro, demeure veuve avec une nouvelle née, Faïgelée, qui est née 3 mois après la mort de son papa. Nous trois, nous aimons tous Faïgelée à la folie et nous sacrifions tout pour elle. Donc, mon amourette avec Rosa, la veuve numéro 2, se retrouve renvoyée au jour où Faïgelée deviendra adulte. Dites donc, vous pourriez avoir l'amabilité de ne pas mettre votre nez dans un bouquin quand on vous parle. C'est pas beau, ça. Écoutez plutôt la suite, ça en vaut la peine. Vous pouvez dire de moi ce que vous voulez, mais moi, je n'ai jamais souffert ni d'extrémisme, ni d'obscurantisme, ni d'obstination. J'ai toujours marché avec mon temps. Je n'ai jamais fait halte ni demi-tour, comme tous ces gens qui se plaignent de la nouvelle génération avec toutes ces innovations. Je ne peux pas les voir, tous ces vieux penseurs, avec leurs fameux arguments. Comment se peut-il ? Comment l'œuf irait-il apprendre quelque chose à la poule ? Lequel est le plus âgé des deux, l'œuf ou la poule ? Espèce d'âne batté ! L'œuf étant plus jeune que la poule, il a bien plus d'importance, de talent et de sagesse que la gallinacée. L'évidence implique donc que la vieille génération se doit d'écouter ce que les jeunes ont à dire, parce qu'ils sont plus vifs et plus frais que nous. Ils étudient, ils cherchent, ils fouillent, ils trouvent et ils agissent. Quoi ? Vous voudriez les voir comme vous, de vieux fourneaux fripés et mités, penchés sur de vieux bouquins poussiéreux, comme vous, qui vous refusez à bouger d'un pas ? Je leur en veux à ces jeunes, uniquement parce que, pour eux, nous autres, les vieux, nous comptons pour du beurre. Ils nous traitent de bestiaux et de vieilles rosses. En fait, ils nous prennent même pour des rien du tout, totalement inexistants, et c'est tout. Figurez-vous que ça mène chez nous, je veux dire chez mes deux veuves et chez Faïgelet, trois petits blancs-becs, étudiants ou non, va savoir de quelle famille, avec des chemises noires sur le dos et des cheveux longs. Ils ne se présentent même pas, mais ils ont la langue bien pendue et ne jurent que par Karl Marx. Ils prétendent que c'est leur Dieu, pas leur Moïse. Dieu ou pas, moi, ça ne me dérange pas tellement, vu que moi-même, je ne suis pas si loin que ça de l'idéal socialiste. Je sais ce que signifie le capital, le prolétariat, la lutte sociale, tout ça. Maintenant, si vous voulez vraiment savoir ce que je suis, moi. Enfin, bon, je ne suis ni un rebelle, ni un tailleur boiteux. Donc, jour après jour, les trois blancs-becs entrent chez nous. L'un s'appelle Finkel, le second Bornstein et le troisième Gouzevitch. Et ils font comme chez eux, surtout que mes deux veuves, quand quelqu'un arrive, elles ne se connaissent plus et elles se mettent en quatre pour lui. Sans compter que sur les trois, il s'en trouvera bien un pour Faïgelet. En fait, tous les trois posent leur candidature, mais évidemment, il n'y en a qu'un seul qui gagnera. Maintenant, allez deviner qui va sortir vainqueur. On ne parle pas de ces choses-là, c'est bien dangereux. On ne pose pas de questions. À qui voulez-vous poser des questions ? À la mère ? Pour eux, la mère, c'est une femme encore jeune, avec un joli visage, pas davantage. À la grand-mère ? Pour ces gens-là, la grand-mère, c'est une propriétaire qui doit veiller à ce qu'ils aient de quoi manger et de quoi boire quand ils arrivent. Et pas seulement ça, mais aussi à manger à profusion et à boire à satiété. Et moi ? Moi ? Rien qu'une chaise à côté de la table. Juste bon à passer le sel ou le sucre, ou encore une allumette, et tout ça, sans, s'il vous plaît, ni pas jalouista, mais en touchant ma veste comme si j'étais sourd. Il arrive qu'ils me trouvent seul à la maison. Alors ils s'installent et bavardent entre eux. Ils s'allongent sur le canapé, les pieds en l'air, et ils jacassent. Ils pourraient échanger un mot ou deux avec moi, non ? Rien ! Et si vous pensez que moi, je vais leur adresser la parole, pour ça, non. Je ne vais pas leur offrir 20 000 flagorneries et autres paroles doucereuses comme tous les autres. Il n'est pas encore né, celui devant qui je plierai l'échine. Non que j'ai de l'orgueil. Vous pouvez me qualifier d'orgueilleux si ça vous chante, mais à votre place, je garderai mon opinion pour moi. Personnellement, j'ai horreur de parler de moi. Je vous parle des trois mousquetaires, là. Quand j'ai eu une fois le malheur de demander lequel d'entre eux savait jouer aux échecs, vous auriez vu leur tête. Et puis, quel rire ! Comme s'il y avait du mal à être à la fois socialiste et en même temps joueur d'échecs. Karl Marx ne s'en porterait pas plus mal. Enfin, bon. En ce qui les concerne, pour moi, qu'ils aillent au diable. Le problème, c'est notre Faïgelet. Elle rit avec eux et elle prend tout ce qu'ils disent pour argent comptant, comme la Torah sur le mont Sinaï. Tous ces jeunes-là, ils adorent un veau d'or d'un genre nouveau. Karl Marx est leur maître à penser, leur rabbin, et nous, nous sommes ses adeptes. Et à part Karl Marx, il n'y a plus rien ? Le monde s'arrête là ? Qu'est-ce que vous faites de Kant, de Spinoza, de Schopenhauer, de Shakespeare, de Goethe, de Heine, de Schiller, de Spencer et de centaines de gens qui, si je ne m'abuse, ont eux aussi dit quelque chose de profond. Peut-être pas aussi profond que ce Karl Marx, mais pas des bêtises non plus. Moi, je n'aime pas qu'on crache dans le potage. J'ai horreur des gens qui lèvent le nez. Alors ça m'arrive de faire de petites agaceries. Vous dites comme si, moi, je dis comme ça. Vous dites uniquement ça, je réponds ça également. Un jour, je les ai entendus parler du comte Tolstoï comme d'un zéro fini. Moi, je ne suis pas un adepte du comte Tolstoï avec sa philosophie du nouveau Jésus-Christ qui en fait quelque chose qui n'a jamais existé. Mais pour moi, comme artiste, Tolstoï n'a rien à envier à Shakespeare. Que vous soyez d'accord avec moi ou non, je m'en bats l'œil. Vous me connaissez, hein ? Rien que pour faire exprès, j'apporte à la maison un roman de Tolstoï et je le donne à Fanny Gelée, juste pour qu'elle ait quelque chose à lire. Vous auriez vu quelle tête elle a faite et comment elle a repoussé le bouquin. Que faire ? Aucun des messieurs Finkel, Bornstein ou Grousevitch ne porte Tolstoï en son cœur. Alors moi, je sors de mes gonds. Quand je veux, je peux me comporter pire qu'une Goya. Je les ai tous tournés en bourrique. Je leur ai expliqué que Karl Marx, ce n'était qu'une théorie et que les théories, ça change du jour au lendemain. Tandis que le comte Tolstoï, c'est un artiste et l'art, il demeure pour l'éternité. Vous auriez vu cet incendie. Vous auriez dit du mal du rabbi de Sadigora, ses ouailles ne vous auraient pas mis sur le bûcher comme ça. Que vous dirais-je, sans l'intervention de mes deux veuves, quel scandale cela aurait fait. Mais en fin de compte, l'idiot, c'était moi. Parce qu'après coup, c'est moi qui ai dû demander la paix. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est Fanny Gelée qui a demandé. Et quand Fanny Gelée veut quelque chose, eh bien, que la volonté de Fanny Gelée soit faite. Si elle m'avait demandé de déplacer la maison, j'aurais refusé. Cette fillette m'a ensorcelé. Elle a annihilé ma volonté. Elle a fait de moi un esclave et un automate. Elle a tourné la tête à tout le monde avec son fiancé. Grousevitch qu'elle a choisi. Étudiant en troisième année de chimie. Rien de bien exceptionnel. Enfin, il y en a des pires que ça. D'abord, il sort d'une bonne famille, c'est toujours ça. Dites ce que vous voulez, ça a son poids. Attendez un peu, je ne parle pas des ascendants directs, seulement, la racine, ça compte. Bien sûr, si vous émanez d'une souche grossière, alors vous pouvez avoir de l'éducation comme Dieu lui-même, vous resterez quand même grossier. Je ne parlerai pas de ses autres qualités. Ces garçons-là, voyez-vous, tant qu'ils éprouvent le besoin de se montrer, ils présentent bien, ils font noble. Mais quand ils quittent ce monde, qu'on parle d'eux au passé, moi je vous le dis, ils sont pires que le commun des mortels. Le commun des mortels, quand ils se moquent de vous, ils se cachent de vous. Mais ceux qui ont un passé, s'ils vous trompent, eh bien, ils vous prouveront que c'est vous le faussaire et non eux. Mais enfin, à quoi bon philosopher dans le vide ? Donc, notre Fanny Gelée devient Madame Grousevitch et elle n'a pas même 17 ans. Je ne vais pas vous noyer dans une mer de détails, comment s'est passé le mariage, qui les a bénis, qui a payé, quelle soirée on a organisée chez les veuves, tout ça. La mère, Rosa, a trouvé dans la cérémonie le réconfort à son deuil. La grand-mère, Faya, a eu la joie de voir sa petite fille mariée. Et moi, l'idiot, j'ai gagné quelque chose à tout ça ? Figurez-vous que la joie n'a pas duré bien longtemps. 3 jours passent et on convoque notre Grousevitch à un interrogatoire pour une bagatelle. On a découvert tout un arsenal de bombes et de dynamite. Or, comme il est chimiste, alors les soupçons se sont portés tout naturellement sur lui. On a aussi trouvé 2 lettres. En bref, le voilà incarcéré. Moi, j'ai commencé à me démener. Je cours à gauche, à droite, un tararam du tonnerre. Quand on vous pince pour un truc comme ça, bonjour, bonsoir, n'oublie pas d'écrire. Et en plus, soyez témoin de la douleur d'un petit être si chétif, un oisillon de moins de 17 ans. Sans parler du tourment de la mère, Rosa, de la grand-mère, Faya. Le courroux divin s'abat sur la maison. Vous devez savoir que les affaires ne marchaient pas tellement non plus. J'ai commencé à gratter le fond de mes poches et j'ai eu recours à des expédients. J'ai hypothéqué mes maisons, j'ai refilé des pots de vin. L'argent commença à manquer. J'ai vendu quelques magasins qui me restaient encore. Je ne veux pas passer pour un phénix à vos yeux. Simplement, je voudrais vous faire remarquer un trait caractéristique de la personnalité de mes deux veuves. Les voir s'intéresser à nos sources de revenus d'hier, d'aujourd'hui et de demain, non, ça, c'est trop demandé. Cela me concerne moi seul. Je dois tout porter sur mon dos. À moi de ramper sous terre. Qui m'y oblige? Est-ce que je sais, moi? La situation l'impose. J'aimerais bien vous voir à ma place, comme ça, entre deux diamants qui brillent plus fort l'un que l'autre. Vous ne pouvez pas vous mettre en colère après elle. Vous ne pouvez laisser la haine ou la jalousie vous hanter. Et si vous vous sentez sous pression et obligé de rentrer chez vous, vous croisez leurs regards, vous entendez un mot de leur bouche, alors d'un coup, la colère s'envole, le ressentiment part en fumée, vous oubliez même si vous aviez quelque chose à leur reprocher, et vous vous déclarez prêt à ramper sous terre pour elles. Elles sont comme ça, on n'y peut rien. Surtout faille gelée, celle-là, une vraie catastrophe. Elle tourne vers vous ses beaux yeux profonds et myopes, et vous voilà paralysée. Non, je ne dis pas ça pour vous, pour moi, pour moi. Parce que son mariage avec Grouzevitch, cela m'avait rendu fou. Micha, qu'il s'appelait. Toute la maison était pleine de Micha. Impossible de manger, de dormir, de vivre, Micha partout. On a arrêté Micha. On a jeté Micha en prison. On va juger Micha. Il faut sauver Micha. Tintin, on ne permet pas même les visites, ni à elle, ni à moi, à personne. Il y a une odeur de déprofondis dans l'air. Le moindre châtiment, ce sera l'exil en Sibérie, et au pire, on le verra pendu. Je vois que cela vous met mal à l'aise. Tenez, asseyez-vous là près de la fenêtre. Peut-être en avez-vous marre de mes histoires. Peut-être en avez-vous marre de mes histoires. Non, c'est normal. Le fardeau que je porte sur mes épaules, cela vous laisse froid. Vous devrez pourtant entendre l'histoire jusqu'au bout. D'ailleurs, j'ai presque terminé et vous pourrez rentrer chez vous. Mais pour moi, la bombe est là pour toute la vie. Donc, notre sujet touche à la pendaison. Vous devez bien voir dans le journal. Aujourd'hui, on a pendu quelqu'un à tel endroit, hier, deux autres ailleurs. De nos jours, pendre les gens, c'est comme égorger les poulets. Et qu'est-ce que vous faites, vous, tout en lisant? Vous vous calez dans votre fauteuil, avec au bec un havane savoureux, ou bien vous buvez un bon café avec deux tartines bien beurrées. Et tout ça pendant qu'on pend quelqu'un, qu'il se balance et agonise au bout de sa corde, et vous le connaissez d'ailleurs, il fait partie de votre maison, il respirait la santé comme vous il y a encore une heure. Et le voilà mort et encore chaud. Les bourreaux lui ont arraché l'âme. Et là-bas, il y a un homme qui aimerait bien mourir, mais il ne peut pas parce que le bourreau a mal tendu la corde ou qu'elle s'est cassée et que le voilà suspendu entre la vie et la mort. Et il regarde son bourreau avec des yeux pleins de commisération et supplie qu'on mette fin à sa torture le plus vite possible. Vous ne supportez pas qu'on parle de ces choses-là? Vous êtes une âme délicate? Figurez-vous que je suis comme vous, moi. J'ai fouiné partout. J'ai découvert le moment exact de l'exécution, et puis j'ai lu dans le journal comment l'un des trois, parce qu'on les a pendus tous les trois, a lutté un bon moment contre la mort parce qu'il pesait son poids. C'était Bornstein, qu'il a fallu pendre deux fois, c'était marqué dans le journal. On a tous lu, enfin Rosa et moi. Nous avons caché les journaux au regard de la grand-mère et de la petite fille. Et voilà comment la maison a hérité d'une jeune veuve supplémentaire, la troisième veuve. La consternation s'est abattue sur la maison, pâle, décolorée, indescriptible. Toute description tiendrait d'ailleurs de la profanation. Une telle calamité, si l'un de vos écrivains avait osé y toucher, je lui aurais cassé les os de la main. Un drame dont il est inutile, impossible et interdit de parler. La vie entière se conjugue au passé dans notre mémoire. Trois veuves, l'histoire de trois existences. Trois morceaux de vie brisés, trois débuts de vie si prometteurs, trois petits rayons de bonheur et puis s'en vont. Moi, je ne parle pas de moi. J'y vais tous les jours, j'y passe des nuits entières. Nous parlons des bonnes choses d'autrefois. nous échangeons de bons souvenirs sur mon ami Pini, sur le brave et honnête Chapiro, sur le courageux Grousevitch, que les journaux ont décrit par la suite comme un génie dans le domaine de la chimie. Je sors de chez elle, le cœur brisé, et je me demande pourquoi j'ai gâché ma vie comme ça, si bêtement. Où ai-je commis la première erreur? Et à quand la dernière? Pour ce qui est de les aimer, je les aime toutes les trois. Et chacune d'elles aurait pu être à moi encore aujourd'hui. Pour chacune, je suis un être à la fois aimé et inutile, une nécessité et une charge. Si je m'absente un jour, branle-bas de combat. Si je reste une demi-heure de trop, à la porte. Elles ne font rien sans prendre conseil de moi. Mais si je propose mon aide, elles prétendent que je fourre mon nez partout. Je me sauve, je m'enferme avec ma chatte, je dis à ma servante que je n'y suis pour personne, que je suis en voyage. Alors je me penche sur mon journal à moi, que j'écris depuis près de 36 ans, un livre passionnant, croyez-moi. J'écris d'ailleurs pour moi, pas pour les autres. Et que vos écrivains aillent tous au diable, qu'ils crèvent de jalousie à voir qu'il y a au monde un journal comme le mien. Je vous le montrerai peut-être à vous, un jour, mais à personne d'autre, pour ça, non. Mais à quoi bon? Une demi-heure passe à peine, voilà qu'on frappe à ma porte. Qui est-ce? La jeune fille qui travaille chez les veuves. On vous attend pour déjeuner. Qu'est-ce qu'il faut lui dire? Dites-lui que j'arrive tout de suite. Qu'en pensez-vous, mon cher maître? Qu'en dit votre psychologie? Ah, vous êtes pressé? Bon, je vous raccompagne. Je dois passer chez mes trois veuves. Ah, attendez une seconde. Je vais demander qu'on donne à manger à ma chatte parce que je risque d'y rester jusqu'à demain matin. On joue à hier à lâche, à préférence, on joue pour de l'argent. Faut voir comment tout le monde veut gagner. Et puis, quand on fait un faux pas, pas de pitié, ni moi pour elle, ni elle pour moi. Moi, quand quelqu'un fait une erreur aux cartes, je le couperai en morceaux. Qu'est-ce que c'est que ce sourire-là? Oh, je sais bien ce que vous pensez. Je vous connais comme ma poche et je me fiche de ce que vous pensez. Vous vous dites « un vieux célibataire colérique ».